Les choses ont bel et bien changé. Certains ont du mal à le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Et je dois dire qu'on a hâte que la société nous accueille enfin à bras ouverts.
Vous n'êtes pas un célèbre criminel.
Si, non, peut-être bien.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions.
C'est la fin du cinéma.
Mais je crois que le cinéma existera toujours.
Vous n'allez pas dans le cinéma, vous.
Breakfast.
Ciné.
Club.
Breakfast Ciné Club.
Voilà, c'est le titre de cette émission du podcast que vous écoutez dorénavant. Et je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et auditrices, du Breakfast Ciné Club. Aujourd'hui, un petit peu spécial puisqu'il tombe tout plein pendant les grandes vacances. Et pour pallier à certaines journées d'été, peut-être un petit peu grises ou au contraire si chaudes que finalement la meilleure climatisation, ça reste celle de la salle de ciné la plus proche de chez vous ou de votre lieu de villégiature. On va vous parler d'un film d'animation, un film familial, drôle, émouvant et surtout trépidant, Bad Guys 2. Et pour ce faire, je suis accompagné de mes malfrats préférés, de ces bad guys qui tentent désespérément de devenir les good guys du web international. En la personne tout d'abord de Marie Palot. Bonjour Marie.
Mais ça va ou quoi?
Ben, ça va super bien, très bien. Ça s'est bien passé ton dernier casse?
Ça s'est très très bien passé, un max d'argent et de...
Et bien voilà, ce qu'on aime, c'est le butin, bien entendu. En face d'elle se trouve Terry. LTM, comment ça va Terry?
Eh ben ça va super bien. Et ouais. comment vous allez?
Bah, très bien, ravi de vous.
Quelques petits démêlés avec les forces de l'ordre sur le dernier hold-up. Mais bon, voilà, on essaye de se refaire une répute, puisque, comme je le disais, on parle de Bad Guys 2.
Yes.
Comme son titre l'indique, c'est la suite de Bad Guys, toujours adapté de la série de romans jeunesse Les Super Méchants. On retrouve donc la bande de Monsieur Loup, Monsieur Serpent, Monsieur Requin, Mademoiselle Tarantule, Monsieur Piranha, dans une aventure pleine de rebondissements qu'on va vous pitcher dans quelques instants. Côté voix française, là aussi, le casting de haute volée du premier épisode est de retour avec Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi, Igor Gottsman, Alice Belaïdi, Douli, mais aussi quelques nouvelles cordes vocales comme celle de Rim Kérissi. Et puis en amont de cette émission, notre cher Terry a eu la chance, que dis-je,
oui,
privilège,
exactement,
de s'entretenir justement avec le réalisateur du film,
oui,
Pierre Périphel,
totalement,
ainsi qu'avec une partie du casting vocal. Ça va, ils ont été sympas?
Ils étaient super sympas et encore une fois, ce réalisateur a une voix de dingue. Genre, en fait, il pourrait faire toutes les voix du truc. J'étais vraiment, mais vous allez l'entendre pendant l'interview, il y a un moment où j'ai complètement glitché.
Parfait.
J'écoutais plus les réponses.
C'est quoi cette voix de fou?
On a très très hâte d'écouter ça. On écoutera donc évidemment leurs réponses à tes questions dans le courant de l'émission. On vous parlera de ce qui nous a le plus séduit dans ce film, qui pourrait vous séduire à votre tour. Le Breakfast Ciné Club Bad Guys 2, c'est parti.
Breakfast Ciné Club.
Alors, pour commencer, Bad Guys 2, qu'est-ce que cela raconte? Alors, je vous ai fait un petit listing en 74 points pour vous résumer un peu tout ça.
Non, mais c'est cool.
Alors, ça part d'un postulat assez simple. Se faire une réputation, c'est une chose.
Oui.
S'en défaire, c'en est une autre. Mm-hmm. Comme je le disais, on retrouve donc toute la bande d'anciens hors-la-loi de Monsieur Loup. Je dis anciens car ils sont donc cette fois-ci en pleine tentative de réinsertion dans la société après avoir tourné le dos à leur passé de malfrats. C'est un peu comme si la bande de Ocean's Eleven essayait de raccrocher les gants. Le souci, c'est que la société, elle ne les accueille pas vraiment avec le sourire ni à bras ouverts. Et au quotidien, tout ça finit par peser sur le moral de Monsieur Loup, qui désespère d'y trouver enfin sa place dans cette société.
Et sur le compte en banque aussi, parce que quand tu ne peux pas travailler...
Et voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça enchaîne les entretiens d'embauche. Hein, je ne sais pas si vous connaissez les personnes qui nous écoutaient. France Travail, tout ça, on vous embrasse. Je sais qu'on est en plein mois de juillet, mais bon, quand même... voilà, ils sont confrontés à ces problèmes de la vie de tous les jours auxquels sont confrontés tous les anciens malfrats, bien entendu. On le sait. Alors, tout pourrait changer, cela dit. Tout pourrait changer lorsque Monsieur Loup et ses acolytes ont l'occasion de prouver leur valeur en devenant eux-mêmes des chasseurs de bandits. Sauf que voilà, tout ne va pas se passer selon les plans finement élaborés de Monsieur Loup. Alors moi, j'ai adoré, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Terry et Marie. Qu'en avez-vous pensé?
Eh bien, ça a été une vraie surprise pour moi. J'ai
passé
un très très bon moment. Je m'attendais à passer un bon moment. Et j'ai passé un très 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 bon moment. Ouais. J'ai trouvé que c'était très drôle, hyper drôle. Les personnages sont hyper bien écrits, c'est équilibré, c'est super rythmé, la musique est folle et c'est jamais infantilisant. J'avais pas la sensation qu'on me prenait par la main pour m'expliquer tous les gags, les trucs. C'était hyper naturel, ça glissait tout seul et je me suis surprise, moi, personne qui ne rit jamais, à rigoler.
Moi
tout
qui
le
n'aime
temps.
Pas du tout rigoler.
Je déteste le rire, d'accord.
Je
déteste le fun. Et j'ai souri au début, puis ri. Et ça a enchaîné. En fait, j'ai passé un trop bon moment.
Génial.
Donc, je pense que les enfants vont adorer, mais pas que. Je pense y aller carrément avec toute ma famille, mon frère, mes parents, etc. Et la rédemption, bah, c'est un arc qui me parle, en fait. Le fait que des bad guys turn good n'arrivent pas à se réinsérer dans la société, je trouve ça triste. Il y a un côté fataliste, mais qui est finalement remis hyper intelligemment. Ouais. En cause dans le film. Donc voilà, au-delà de tout ce que le film propose en termes de réalisation, de graphisme, de casting, de voix française, on s'en parlait, j'ai tout de suite accroché justement avec cette histoire et les ficelles qui vont peu à peu être déroulées dans ce long métrage.
Juste avant d'écouter un extrait, je rebondis sur la musique, effectivement, je souhaitais en parler parce que c'est quand même l'ami Daniel Pemberton qui se charge de la bande originale du film. Daniel Pemberton qui est également le responsable des bandes originales des Spider-Verse et autres films d'animation de haute qualité. Et qui, une fois de plus, démontre tout son savoir-faire en termes de bande originale, un petit peu mixtape, avec effectivement, comme tu le suggérais à travers cette petite mélodie, des mélanges de mélodies pop connues avec de l'orchestral, avec des scratchs. Enfin, c'est vraiment, si vous êtes amateur de musique ainsi que de mixtape et de hip-hop ou que sais-je encore, vous allez kiffer la BO. Comme je le disais, on écoute un petit extrait de Bad Guys 2 et on revient avec l'avis de Terry.
Yes.
Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque?
Ouais, pourquoi pas? J'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques.
Vous nous avez braqués à 3 reprises.
Duh.
Attendez, c'était cette banque?
Breakfast Ciné Club.
Eh oui, parfois on va dans une banque pour retirer de l'argent et parfois on va dans une banque pour retirer de l'argent aux personnes qui sont déjà dans la banque. Alors Thierry, toi?
Écoute, franchement, j'ai passé également, comme vous tous, je pense, un très très bon moment. Ce que j'ai aimé surtout, c'est l'énergie du film. Tu vois, il y a un vrai rythme, il y a une vraie générosité dans l'animation. C'est coloré, c'est très fluide et c'est super bien découpé. Visuellement, c'est un plaisir. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait un message assez universel. Cette idée de chercher sa place dans le monde, de se battre contre l'image qu'on renvoie. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut parler à peu près n'importe qui. On peut s'identifier à ce genre de problématique et tout ça à travers des personnages attachants, donc avec de l'humour, mais je pense que du coup ça rend le message encore plus accessible, le fait que ce soit drôle et tout. Donc j'ai vraiment pu d'ailleurs interroger le casting sur cette question. Ouais. Est-ce qu'on peut véritablement changer? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire?
Oui. Moi, je sais pas.
Vous savez
pas. Je pense que c'est très difficile. Il y a certains schémas qui sont ancrés dans ton ADN depuis l'enfance, c'est difficile de s'en débarrasser. Mais on peut tendre à aller vers le mieux.
Eh ben, je te propose d'écouter la réponse du casting.
Le film parle beaucoup de changement.
Oui.
Est-ce que selon vous, il est possible de véritablement changer qui on est?
Moi, je pense que je pense que oui. Je crois en la rédemption totale, la seconde chance. Puis surtout, la vie est longue et j'ai l'impression qu'en une seule vie, on peut être plein de personnages différents et heureusement, je crois.
Parce que en une seule journée, on peut être plein de personnages différents.
Ouais.
Après, changer complètement, je dirais. On est quand même une accumulation de nos expériences qu'on a envie de rediriger et d'évoluer, mais changer complètement, tu vois.
Moi, j'espère que si. Ouais. Moi, j'espère que j'ai changé vraiment radicalement. Je crois que j'ai changé radicalement sur des trucs et je crois pour le meilleur, j'espère. Mais quand tu vois tes parents, des fois, tu te dis « Ah, on peut pas changer.
Ah » ouais.
Donc, je sais pas.
C'est vrai que comme tu dis, le premier film est basé là-dessus. Quoi. Et il était basé sur une expérience personnelle. Je passais par une séparation et c'était un changement de vie pour moi. Quoi. C'était une crise de vie, quoi.
C'est finalement et donc, un épisode traumatique.
C'est ça. Et donc, je m'identifiais beaucoup au personnage principal par rapport à son changement. Et du coup, quels sont les ressentis après ça? Et quand on essaye de se réanalyser, de comprendre qui on est à travers un changement assez radical de vie, quoi.
Trop stylé. Je tiens à préciser que c'est la première fois que j'entends ta voix et c'est ouf. Elle est genre elle est mieux que toutes nos voix.
C'est vrai que tu dis, bah fais le tour en fait.
Genre, si tu te la racontes avec.
Apparemment.
Apparemment, monsieur, il ne pas tout le monde.
C'est vrai qu'il a une très belle voix.
Non, c'est impressionnant.
T'as raison, t'as raison.
Mais c'est très très cool non, pour un podcast, c'est utile.
Je peux pas m'entendre, c'est pas possible.
Ah ouais, t'as une voix de dingue.
Mais les gens disent plutôt que t'as une belle voix généralement.
Me disent. Alors.
Te dis rien. Alors, après, tu vis aux États-Unis et ils ont des voix un peu plus comme ça. Donc peut-être eux, ça les étonne moins. Alors que nous, on aime bien.
Le retour du Breakfast Ciné Club avec une nouvelle partie. J'ai pas dit c'est parti.
Non, t'as dit Breakfast Ciné Club.
Breakfast Ciné Club, yahoo. Avec une deuxième partie d'interview avant la fin de cette émission. Alors, comme pour le Bad Guys premier du nom, le film, on le rappelle, est signé par le réalisateur français Pierre Périphel, qu'on a entendu lors de ton interview. Il est scénarisé d'après l'œuvre de l'auteur Aaron Babley par Ethan Coen. Oui. Le Ethan Coen des frères Coen est donc le co-scénariste et co-réalisateur de chefs-d'œuvre tels que Fargo, The Big Lebowski, Oh Brother, Burn After Reading ou encore le magistral No Country for Old Men, qui j'ai vu d'ailleurs s'est placé dans le top 20 du classement des meilleurs films du 21e siècle par le New York Times.
Ça va.
Donc voilà, ça va. C'est le mec qui a écrit le scénario de Bad Guys 2, donc c'est pas un manchot du stylo. D'ailleurs, je trouve que ce style Coen, justement, c'est ce qui faisait de Bad Guys premier du nom un film d'animation un petit peu hors norme. C'est ce même atout, je trouve, qui marche aussi dans Bad Guys 2. En gros, on a certes un film d'animation à première vue familial avec des animaux anthropomorphes qui parlent soit un rebondissement par minute, mais on a également une précision de l'écriture et tu le disais, Marie, un sens du rythme, un amour de l'absurde qui donne à l'ensemble un ton assez unique. Ethan Coen, c'est un maître des scénarios catastrophes, des plans hyper élaborés qui finalement tombent à l'eau, des losers magnifiques. Il n'y a que ça dans les films des frères Coen. Et cette maîtrise associée à la virtuosité de la réalisation de Périphel, ça fait des étincelles et ça change ce qui aurait pu être un film d'animation de plus en un récit qui, vous le disiez justement dans vos avis, nous touche, nous fait rire, nous fait sourire et pas uniquement avec des gags visuels de cartoon, même si ça aussi, évidemment, Marie, tu en reparleras, on adore les gags de cartoon un petit peu pipi caca.
J'adore le prout.
Voilà, sachez-le. Si vous êtes fan de prout, vous allez vraiment être servi avec ce film. Alors, le rêve de Monsieur Loup de devenir un citoyen respectable malgré son passé, effectivement, on y croit. Tous les personnages sont hyper bien caractérisés. Les archétypes habituels sont dépoussiérés de manière assez fine, je trouve. Quand on parle des rapports hommes-femmes et de la drague, là encore, une fois, il y a des rôles qui sont un petit peu inversés à travers certains personnages. J'ai trouvé ça très bien senti. Moi, je suis sorti de la projection avec Marie, complètement séduit. On était tous les deux un peu sur le même mood avec un truc que j'aime beaucoup quand je sors des films avec des personnages comme cela, c'est un petit coup de blues de plus être avec eux, Marie.
J'ai le même sentiment que toi, en fait. La bande m'a fait être rigolée, comme je vous l'ai dit. Ouais. Hein, j'ai eu plein de faux rires, donc j'étais un peu deck que ça s'arrête. Ouais. Et pourtant, le film est juste ce qu'il faut de longueur. Et ouais. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que t'as pas besoin de voir le 1 pour comprendre le 2. C'est vraiment...
Oui, tout à fait. En fait, le prologue qui est un vol dans un palais te laisse comprendre qui sont les personnages, quels sont leurs rôles dans le gang, et une fois que le prologue est terminé, t'enchaînes sur la suite. Effectivement, ça te fait, c'est sans te faire un résumé du premier, sans te faire un flashback, on te fait assister à une scène qui est assez virtuose dans la réalisation d'ailleurs, qui te met en place tous les éléments
complètement. Voilà. Et t'as toutes les clés en main pour comprendre. Et ce qui m'a aussi pas mal séduite, ce sont toutes les scènes d'action de la deuxième partie dans un certain environnement, hein, on peut pas trop en dire là-dessus, mais voilà, les gags, l'animation, les dialogues, tout est absolument génial et bien écrit. Il y a une scène notamment mémorable, j'adore le prout comme j'ai dit, en particulier, je vais évidemment
en particulier les miens,
je vais pas plus vous spoil, mais elle est inspirée du tome 5, tu le disais, hein, oui. The Bad Guys, donc les romans jeunesse. Voilà, et c'est intitulé Intergalactic Gas, voilà, vous avez tout dans le titre,
le gaz
pense.
Intergalactique,
voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Pierre Périphel confirme un modèle de narration par inspiration plutôt que de suivre vraiment les livres à la lettre. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il y a des sauts entre les tomes, mais nous, en tant que spectateurs du film d'animation, c'est hyper lisible, hyper compréhensible. Ouais. Le film emprunte des idées clés au roman, hein, les personnages, les moments forts, les gags visuels, évidemment, mais on ne suit pas l'intrigue exacte à la lettre du tome 5, par exemple. J'ai appris du coup, en écrivant cette partie du podcast, que Pierre Périphel avait évoqué dès la phase de post-production prod du premier film que la suite était déjà en préparation. Il avait déjà une vision long terme de ce projet. L'évolution rapide entre le premier et le deuxième opus, c'est cette volonté en fait de déployer un univers hyper riche, visuellement ambitieux, tout en exploitant le momentum du premier succès. Moi, je trouve que ce deuxième film, en fait, il s'essouffle pas du tout. Il est vraiment, il vit tout seul même.
Ouais, carrément.
Et j'ai adoré le design narratif, le visuel, voilà, qui s'inspire non seulement du visuel du cinéma de Tarantino ou de Bond, de la BD franco-belge, d'animés comme Lupin Sansei, Sherlock Hound, ou du style graphique de film, on parlait tout à l'heure, notamment en termes de musique, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et puis, en termes d'influence vraiment cinéma, Peggy Feig, il l'assume, il s'est inspiré de plusieurs univers bien distincts, par exemple le style tendu d'Inglourious Basterds, avec un personnage particulier qui s'appelle Kitty Cat, dans le film, que j'ai trouvé génial. Non seulement en termes de voix, mais d'écriture, d'histoire, elle est trop badass. Le discours iconique de Skyfall avec Javier Bardem, on retrouve des éléments d'interrogation inspirés de True Romance. Tout ça pour donner au film une dimension et une tension narrative subtile, et qui du coup en fait pas juste un film pour les enfants, mais aussi un film pour les gens qui aiment le cinéma, qui ont aimé des gros des gros chefs-d'œuvre du 7e art, et qui pourront retrouver...
Des bons gros chefs-d'œuvre.
Ouais, des bons gros chefs-d'œuvre qui pourront retrouver plein de clins d'œil et de ficelles qui pourront leur parler.
Eh bah parfait, si vous aimez les ficelles qui parlent, on écoute tout de suite un extrait de Batman.
Ne me dis pas que vous êtes redevenu méchant.
Non, on essaie de nous piéger. Il faut qu'on prouve au monde qu'on est gentil, donc on va les saboter.
Thierry, on enchaîne avec toi. Est-ce que tu pourrais développer ton petit avis sur le film ?
Eh bien, écoute, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce réalisateur, Pierre Peggy Feig, qui est d'ailleurs une partie de ce casting de voix française. Ouais. Et c'était une rencontre vraiment impressionnante. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout le monde était investi, autant sur le fond que la forme. Visuellement, déjà, donc, comme je disais, j'ai adoré. Il y a un travail d'identité graphique de ce film. Chaque groupe de personnages a comme son propre univers visuel. Donc, ses couleurs, ses textures, ses codes, un petit peu à la manière de Into the Spider-Verse, dont on a beaucoup parlé. On retrouve un petit peu ce côté glitch. Il y a des influences très pop, parfois même donc BD ou animé, qui donne aussi un ensemble avec un style hyper vivant. Donc on a des scènes d'action qui sont complètement décomplexées, avec un côté un peu Fast and Furious, où tu vois il y a de l'absurdité et de l'outrance, où les lois de la physique elles sont en vacances très concrètement.
Les voitures se cassent
Mais pas les corps.
Non.
Les corps, tout va bien.
Mais les voitures, bon,
les corps sont en caoutchouc.
Et ça marche vraiment super bien. Les voix françaises, évidemment. Donc on en a parlé pendant cette interview. Comment on construit un personnage sans partenaire de jeu. Comment on doit imaginer un petit peu ce décor juste avec la voix. Et en même temps, qu'est-ce que ça donne de travailler pour ces personnes, de travailler sur un projet familial. On l'a vu du coup d'ailleurs au début de ce podcast, de savoir un petit peu le thème principal. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce qu'on reste toujours le même? Et ça a donné l'occasion de pouvoir discuter de pas mal d'anecdotes, du lien qu'entretiennent du coup ces acteurs avec les personnages. Et donc c'était riche, et je propose de terminer encore d'écouter la fin de cette interview. On fait ça parce que vraiment on passait un bon moment.
Merci Thierry.
Est-ce que c'est important pour vous réal comédien comédienne de faire ce genre de projet? Est-ce que ça vous touche différemment?
Que ce soit tout public entre guillemets. Moi j'aime bien.
Déjà de toute façon c'est, je crois qu'on fait ce métier aussi pour que les gens voient nos projets et que ça parle aux gens, et que quand tu fais un film populaire dans le bon sens du terme, qui touche les jeunes, les vieux, tout ça, il y a c'est une forme de reconnaissance quand même de parler à tout le monde. Alors il y a des projets qui s'y prêtent évidemment pas, mais dans des projets de comédie où là en l'occurrence dans ce projet là c'est vrai que c'est gage de réussite quand même.
Moi je crois que les films avec lesquels j'ai grandi, dont je me souviens maintenant, ça va être Retour vers le futur, ça va être Les Goonies, ça va être E.T. Ça, c'est des films populaires.
Psychose.
Et...
non, vous savez pas.
Ça m'a touché aussi. Mais c'est pas ce film, tu vois, sur lequel je saute en premier. Tu vois.
Kubrick.
Et du coup, tu vois, film un peu plus... arrêtez, c'est un des... j'adore, mais c'est... sur vers quoi je gravite en premier. Et du coup, je suis très content de pouvoir faire un film qui, potentiellement, dans 15 ans, quelqu'un viendra me voir. Tu sais, j'ai vu ton film, j'étais gamin, je m'en souviens tellement bien, ça m'a changé, ça m'a marqué. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, c'est smart, populaire, comme ça. Ouais.
Et finalement, quand on réalise un film et que donc après un succès, est-ce que j'imagine qu'il y a peut-être une forme de pression? Est-ce que on se dit faut absolument que j'arrive à transmettre ce message-là? Il faut que les gens retiennent une chose en particulier quand on fait le film? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans nos têtes quand on est quand on fait une suite, et surtout une suite d'un film à succès?
Suite de film à succès, c'est la pression. Ouais. De savoir que la plupart des suites sont moins bien que les premiers. Et te dire, je serai celui qui arrivera en fait. Donc, on se met cette pression-là. Et puis, voilà. Et l'autre grosse question, parce que c'était mon premier film, mon premier film en tant que réalisateur, c'est est-ce que c'était un coup de bol de faire un film qui a bien marché, qui tient la route, succès d'estime et succès commercial, ou est-ce que c'était, est-ce que je suis capable de le refaire une deuxième fois? Donc ça, c'était la pression que je me mettais à moi-même. L'autre pression, c'est que tout le monde, du coup, a beaucoup plus sur notre dos à regarder ce qu'on fait, parce que ils veulent aussi un succès de leur côté. Exactement, beaucoup plus d'attentes. Donc voilà, ça, c'est la pression qui se passe sur une suite. Quant au message qu'on fait passer, ça a tendance un peu dans n'importe quel, d'ailleurs, médium, on va dire, d'écriture, ou en tout cas qui raconte une histoire. On a une idée à peu près du message qu'on a envie de faire passer, j'en avais à peu près une, mais petit à petit, ça se raffine et parfois ça change un peu quand même. Mmh. Et donc voilà, là on tombe sur vraiment des thèmes de rédemption et de réinsertion dans la société. Et puis cette idée de, est-ce que le changement est définitif? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on peut douter du changement qu'on a, des changements qu'on a voulu opérer dans sa vie? Donc ça, c'est les deux thèmes sur lesquels on a vraiment atterri, qu'on a vraiment réussi à encercler. Mais c'était pas toujours ça. Avant, au tout début, c'était pas exactement ça.
Et quand on bosse sur une grosse production, est-ce qu'on a toujours le moyen de garder une patte un peu personnelle?
Ouais, complètement. Ouais, pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup de moi dans le film. Ouais. C'est pas. Alors, on a eu une grosse note du studio qui. C'est ce que je disais tout à l'heure, le film à la base est un petit peu plus centré autour de Diane, parce que voilà, les trois méchantes, les trois bad girls étaient son ancien crew, et donc Et le problème, c'est que ça, émotionnellement, on tout tournait un peu plus autour de Diane, et du coup, et on met le studio, dit non, mais attends, c'est le film des bad guys, on veut que ce soit Wolf.
Oui,
et
non, mais c'est une bonne note.
Non, mais c'est une note intéressante.
Et, donc, pardon, ça, je me permets.
Là, il y a aucun problème.
Mais c'est vrai que. C'était dommage.
Il y a une question que j'ai quand même zappé quand on parlait de la pression. Est-ce que pour vous, du coup, il y a une forme de pression par rapport au rendu VO? Est-ce qu'on se dit, faut que je fasse mieux, faut que je fasse différent, faut que je sois à l'opposé, faut que j'arrive à me calquer dessus? Qu'est-ce qui se passe un peu dans votre tête?
Mieux, non, pas différent, oui, forcément, mais bien. Parce que Pierre est français déjà, donc nous on sait que le réal de ce film, c'est pas un ricain qui va pas rien comprendre à ce qu'on dit. Ouais, Pierre, Niné, on sait pas trop, on sait. Monte Cristo. Tu vois,
chez moi dessus directement.
C'est pas juste ce que je veux dire. Là, moi j'ai l'impression de me dire, j'ai envie de lui plaire aussi, parce que déjà il comprend ce que je vais dire, quoi. Donc cette pression-là, elle est d'autant plus forte là, en l'occurrence. Ouais. Et puis, je pense que quand on a la chance d'avoir un projet comme ça, on a envie de bien faire, on a envie de répondre, que tout le monde soit content, et puis de saisir sa chance vraiment comme il faut, quoi.
Trop bien.
Il y a la petite pression vient aussi parfois parce que le cast américain, c'est des acteurs qu'on admire et donc on se dit ok.
Merci beaucoup Terry d'avoir recueilli les propos de l'équipe du film Bad Guys 2, le long métrage d'animation de l'été, un film qui ne se limite pas, comme on l'a dit, à son statut certes indéniable de divertissement familial, mais saura aussi séduire les jeunes adultes avec son écriture efficace et pleine de références subtiles, ses personnages drôles et attachants, le soin apporté à la réalisation, à la musique et puis l'équilibre parfait entre comédie et action, car évidemment on l'a peu dit, mais on rit énormément devant ce film. Personnellement, j'ai vu. Moi, je l'ai vu en projection de presse. Voilà, ça commence à fouetter un peu dans ce studio. Personnellement, moi, je l'ai vu en projection de presse, mais je vais évidemment y retourner avec mes enfants dans un cinéma de la France, entre deux beignets sur la plage. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Thierry Marie, vous me conseillez d'aller voir ce film avec qui, dans quel mood, où, quand, comment?
Yes. Voilà, sympa.
Ouais, sympa. vas-y, mais non,
j'y vais. Allez. Super, merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai envie d'y aller. Tu vois, je pense que ça peut être un truc assez sympa. T'as de l'humour, t'as de l'action, t'as des moments touchants. Et puis, Je rigole un peu, mais il y a quand même un exemple de couple dans ce film qui est prêt à se pardonner à peu près tout et n'importe
red
quoi.
Flag. Donc, bon,
ça
red flag.
Donner un petit peu séance thérapie de couple déguisé. Voilà. Mais voilà, honnêtement, si votre date refuse d'aller
c'est
voir
Bad
Poutre, Guys 2 sous prétexte que c'est un film d'animation,
eh
ben, c'est que cette personne se prend témoin trop sérieux. Donc c'est mort.
Voilà. C'est voilà.
Au moins, ça,
ça n'était qu'un amour de vacances à cause
du casting. Mais franchement,
une banale scène de Prout.
Faut y aller. Non mais ça ouvre oui. plein de
possibilités,
de plages de
ouais.
sujets.
Ouais. Ouais. Ouais.
Effectivement.
Ah super. Super.
Intergalactique.
Mais moi c'est vraiment donc, cette voilà. scène de
sachez
Prout
que,
intergalactique qui fait
sachez
que
Bad Guys 2 peut avoir des vertus thérapeutiques si je vous partagez la vie d'une personne qui a la phobie des fesses. Et c'est là-dessus.
On peut faire ça quand on est en couple. On peut l'enfermer dans la couette.
Merci beaucoup de l'avoir écouté. Marie, Thierry, merci beaucoup pour vos interventions, pour la réalisation de cette interview. Merci à toutes et à tous d'avoir fait un petit break en plein cœur de vos vacances d'été peut-être. En tout cas, si c'est le cas, on vous les souhaite excellentes pour nous écouter. N'hésitez pas à vous rendre au cinéma. S'il fait pas beau ou s'il fait beau mais qu'il fait trop chaud, vous allez voir Bad Guys 2 et vous allez ressortir avec la pêche, la banane. Et puis on se retrouve en septembre, on se retrouve à la rentrée avec plein de nouvelles joyeusetés à partager avec vous. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on vous réserve de très très belles surprises. Bon mois d'août, voilà, gros bisous, ciao.
Pour la rentrée ?
Ouais.
Ça va être trop bien.
Bisous, bisous.
T'es ciao.
Les choses ont bel et bien changé. Certains ont du mal à le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Et je dois dire qu'on a hâte que la société nous accueille enfin à bras ouverts.
Vous n'êtes pas un célèbre criminel.
Non, peut-être bien. Désolé, c'est le stress.
Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque?
Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques.
Vous nous avez braqués à 3 reprises.
Duh.
Attendez, c'était cette banque?
Comment on est censé prendre un nouveau départ si personne nous fait confiance? Je vous ai à l'œil, tous les quatre.
Mais pourquoi t'as fait ça?
J'ai paniqué, d'accord? Je suis un paniqueur.
Moi, c'est Miss Tigri, et elle, c'est mes associés.
Donc vous êtes genre des bad girls?
On a besoin des bad guys pour faire le plus grand casse de l'histoire.
Alors, vous avez peut-être pas suivi, mais on est gentils maintenant.
Je suis pas en train de te demander si t'es d'accord.
Ne me dis pas que vous êtes redevenu méchant.
Non, on essaie de nous piéger. Il faut qu'on prouve au monde qu'on est gentil. Donc on va les saboter.
Ok, maître du déguisement, c'est à toi.
Je promets de vous imiter de façon respectueuse.
Mac, où sont mes fleurs? Prego, cappuccino.
À toi de jouer.
Ni vu ni connu, je te hack.
Serpent, il va nous falloir un peu de muscle.
Je vais être en retard pour mon vignassa.
Vigna quoi?
Vous croyez que je me suis sculpté ce corps de rêve en restant à glander devant la télé?
Et ensuite, on aura
plus qu'à les découper petit bout par petit bout jusqu'à ce que leur corps en morceaux ne soit plus que souffrance.
Wow, ok, j'allais dire les arrêter, mais d'accord, si on a le temps, on peut essayer ton truc. Bon, bah quand faut y aller, hein? Remonte-nous, serpent!
Vinyasa, baby!
Non mais c'est une blague! À gauche on dévisse, à droite on visse!
Oh, ok.
Dis, t'es pas stressé, hein? Parce qu'on sait tout ce qui se passe quand t'es stressé.
Frérot, je suis désolé.
Quoi? Non, 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 non!